Je n'aimerais pas vous dire que la situation économique est morose, mais malheureusement, j'y suis un peu obligé. Une baisse importante de la consommation, une hausse du chômage, un recul inédit de la croissance. Bref, l'épidémie de coronavirus a mis en lumière la fragilité de nos systèmes économiques à résister à une crise sanitaire d'une telle ampleur. Doit-on profiter de cette crise pour repenser l'économie de demain? Et la transition écologique à mener est-elle compatible avec un système économique basé sur la croissance? Bonjour Éloi Laurent.
Bonjour.
Vous êtes économiste à l'OFCE et deux de vos livres sont actuellement disponibles en ligne gratuitement. Il s'agit du Bel Avenir de l'État-providence avec une préface inédite, Les quatre mondes de l'État social écologique, et puis Sortir de la croissance. Donc deux de vos ouvrages que nos auditeurs peuvent consulter. Éloi Laurent, quel regard portez-vous sur la crise actuelle?
Alors d'abord, c'est un regard qui change au jour le jour, parce qu'on en apprend, si je puis dire, tous les jours, quasiment toutes les heures, et on n'en est encore qu'au début de l'analyse de cette crise. Mais je pense que à ce stade, il y a trois choses qui sont relativement saillantes. La première chose, c'est que cette crise, certes une crise sanitaire dans ses conséquences, mais dans ses causes, c'est une crise écologique. C'est une crise qui est liée à un traitement de la biodiversité et des écosystèmes qui est tout à fait, destructeur du bien-être humain. Hein. On va trop loin dans la conquête de la biodiversité et des écosystèmes. C'est le problème du marché des animaux vivants. C'est comme ça que ça a commencé. Et donc, on a un système économique qui oublie, en fait, la question de l'environnement, qui oublie la question de ce qu'il sous-tend vraiment, c'est-à-dire les écosystèmes, et qui, du coup, aboutit à une espèce d'autodestruction du bien-être humain. Et donc, de ce point de vue-là, il faut, je crois, relier cette question du Covid-19 à l'autre crise écologique massive qu'on a eue au début de cette décennie tellement importante qu'est la décennie 2020, pour justement cette compatibilité entre l'économie et l'environnement qui, évidemment, sont les incendies géants en Australie. Et donc, on a une décennie 2020 qui commence avec un rappel très clair, mais qui est clair pour beaucoup de gens depuis longtemps, mais qui maintenant commence à être aussi évident pour une majorité de la population, qui est que tout simplement détruire la nature est au-dessus de nos moyens. C'est pas seulement que c'est une folie en termes éthiques, c'est que c'est une folie économique. Un système économique qui oublie la question des ressources naturelles et de l'environnement devient autodestructeur et en fait est suicidaire. Ça, c'est la première chose et sans doute la plus importante à comprendre. La deuxième chose, c'est que tout ça a commencé dans un régime autoritaire qui a caché pendant à peu près 3 mois la réalité de la situation, qui a réprimé de façon absolument féroce tous les lanceurs d'alerte, qui est la Chine, et que donc l'idée selon laquelle la dictature est une bonne affaire économique et au fond le contrat social que propose la Chine depuis 40 ans, c'est-à-dire on fait une croissance économique extrêmement importante, hein, 10% par an en moyenne pendant 40 ans, mais par contre, au niveau des libertés et des droits, rien ne progresse absolument en Chine. L'idée que tout ça, en fait, est une bonne affaire et que ça pourrait, y compris, être un modèle influent pour le reste du monde, on voit à quel point le coût, en fait, économique est astronomique. Hein. Le coût de la dictature est astronomique, puisqu'on a perdu 3 mois et que, évidemment, ça se traduit aujourd'hui en dizaines de milliers, peut-être centaines de milliers de vies humaines qui vont être perdus. Et puis la troisième analyse qu'on peut faire, c'est que c'est le plus mauvais moment, ce début du XXIe siècle, pour abaisser nos protections collectives. C'est-à-dire que ce dont on a besoin, l'institution stratégique du XXIe siècle, c'est l'État-providence. Et donc on a absolument besoin de toutes nos protections sociales, à la fois pour leur rôle de stabilisateur économique, mais aussi pour leur rôle, évidemment, de réduction des inégalités, etc. On entendait dans la chronique internationale le fait que les Africains-Américains sont massivement touchés. C'est aussi le cas évidemment en France pour les populations qui sont défavorisées. Il y a des inégalités territoriales, il y a toutes sortes d'inégalités qui sont révélées par cette crise et on a besoin d'une institution égalisatrice puissante, c'est l'État-providence et il se trouve que on l'a affaibli depuis 15 ans en France, ailleurs en Europe, là où il a vu le jour à la fin du 19e siècle. Je vous rappelle simplement qu'au moment où la crise a frappé la France, on en était à l'idée du 49-3 sur le système des retraites et que ça faisait grosso modo un an que les personnels de santé criaient dans le désert qu'ils en étaient à bout, etc. Donc voilà, donc trois angles d'analyse. D'abord, la nécessité absolue de prendre en compte la question environnementale dans l'analyse économique, le coût astronomique de la dictature pour elle-même et pour le reste du monde, et l'importance de l'État-providence comme institution stratégique du XXIe siècle.
Alors, si on les reprend par ordre, Éloi Laurent, on pourrait aussi vous rétorquer que les marchés d'animaux vivants sont une institution assez ancienne en Chine, que finalement, elle relève assez peu de la crise écologique actuelle, et qu'aujourd'hui, pour en sortir, eh bien, il va falloir qu'on relance la machine productive. Je parle uniquement sur le plan de la santé, il nous faut des respirateurs, des masques, bref. Et cette crise, elle dévoile finalement les lacunes que nous avons en matière de production, pas tellement en matière de protection de l'écologie. Si l'on vous rétorque ça, que diriez-vous ?
Ça me paraît faux, tout simplement. Ça me paraît totalement faux. Une fois de plus, il faut vraiment prendre les premiers mois de l'année 2020 comme un système. Hein. C'est-à-dire qu'on a les trois crises qui sont rassemblées, changement climatique, dégradation des écosystèmes, destruction de la biodiversité, une tradition assez ancienne, mais pas à l'échelle à laquelle elle est pratiquée. Et par ailleurs, on sait que c'est pas le premier coronavirus qui provoque ce genre de phénomène et que c'est pas non plus la première pathologie de la frontière homme-animal qui provoque des crises sanitaires absolument majeures. Le sida était une première étape, Ebola, le SRAS, etc. Et on sait que plus on va loin dans la destruction de la biodiversité et dans sa marchandisation, c'est non seulement une destruction de la biodiversité des écosystèmes, mais une marchandisation de la biodiversité et donc une valeur purement instrumentale des ressources naturelles, et plus en fait, c'est une erreur, c'est une myopie totale, mais c'est pas seulement évidemment abject moralement de détruire la biosphère, c'est en fait une erreur profonde en termes de bien-être humain, c'est-à-dire que ce qu'on croit détruire en détruisant la nature, en pensant qu'elle est extérieure à nous, c'est tout simplement les fondements de nos systèmes économiques, donc c'est vraiment de l'ordre de la destruction, c'est vraiment ce qui est à l'œuvre, et donc il faut absolument sortir de ça, prendre en compte les ressources naturelles, prendre en compte l'importance vitale pour les humains d'avoir des écosystèmes qui ne soient pas dégradés, et tout simplement comprendre que l'économie s'inscrit dans une réalité qui est beaucoup plus large, qui est la biosphère. Et ça, cette révolution-là, si vous voulez, l'économie dominante aujourd'hui ne l'a non seulement pas faite, mais elle s'en est éloignée en un sens. L'économie aujourd'hui est moins concernée par les questions d'environnement qu'elle ne l'était quand Adam Smith était influencé par Newton. Donc on a vraiment un problème majeur. Et je pensais avant...
Qu'est-ce que ça veut dire cet éloignement ? Je veux dire, lorsque vous dites qu'on s'en préoccupait plus au XVIIIe siècle, Éloi Laurent, qu'est-ce qui s'est passé depuis lors ?
Ce qui s'est passé, c'est que on a construit un système artificiel qui est largement théorique, hein, qui sont donc des modèles qui tourne à peu près en dehors de toute réalité empirique. Et on voit ça très bien avec les modèles de l'économie du climat, hein, où on aboutit à des conclusions complètement aberrantes, où vous avez le meilleur spécialiste au monde de l'économie du climat récompensé par le prix de la Banque de Suède en mémoire d'Alfred Nobel, qui vous explique que le monde optimal du point de vue économique, à la fin du XXIe siècle, c'est un monde dans lequel vous avez 3,5 degrés de réchauffement climatique, c'est-à-dire qui va à l'encontre de ce que disent les véritables sciences que sont la physique, la chimie, etc., et qui vous disent c'est une folie. Donc si vous voulez, si vous abordez un siècle aussi réel que le 21e siècle en termes de conséquences, aussi tangible avec des systèmes aussi artificiels et aussi éloignés des réalités, bah effectivement vous avez les catastrophes. Donc voilà, donc je pense la leçon absolument fondamentale là à méditer, c'est qu'on ne peut pas avoir des systèmes de pensée qui soient aussi diamétralement opposés à nos conditions de vie et qui disent autant le contraire de la réalité. Si vous voulez, l'Australie, c'est un pays qui a 3-4% de croissance, la Chine, c'est un pays qui a 6-7% de croissance, et on voit à quel point, évidemment, ça ne prémunit de rien à partir du moment où les écosystèmes se retournent contre les humains.
Mais lorsque vous parlez de votre discipline, Éloi Laurent, parce que c'est votre discipline, l'économie, qui, dès le 18e et le 19e siècle, a expliqué par exemple qu'il fallait que chaque pays se spécialise dans une production et qu'ensuite, eh bien, l'égoïsme des uns conduirait les autres à acheter ces différents produits. Or, aujourd'hui, eh bien, on se rend compte que ce système a certes des avantages, mais qu'il a aussi des inconvénients. On le voit bien avec la difficulté d'importer aujourd'hui des produits, des médicaments, des biens qui nous paraissent absolument précieux. Est-ce que ça veut dire qu'il faut fonder une autre science économique, que les prémices sur lesquelles s'est construit l'économie, eh bien, sont des prémices aujourd'hui à critiquer?
Alors d'abord, il n'y a pas de science économique au sens de la physique, de la chimie, etc. Il n'y a pas de loi universelle de l'organisation sociale des groupes humains, valable tout le temps, partout, vérifiable empiriquement, etc. Donc l'économie ne fait pas partie du monde des sciences comme la physique ou la chimie. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que les fondations de l'économie, si on remonte à Aristote, il y a 2 millénaires et demi, c'était la question du bonheur et du bien-être, c'était pas la question de la croissance ou du revenu. Et puis l'analyse classique, c'est parfois mal compris, notamment en France, mais l'analyse classique économique, c'est pas du tout un régime d'abondance, c'est un régime d'avarice. Si vous prenez les économistes comme David Ricardo, les grands économistes de la mondialisation, ce sont des économistes qui prennent comme point de départ précisément l'avarice de la nature. Et le fait que nous sommes dans un monde fini, et que c'est justement en raison de cette finitude qu'il faut aller chercher plus loin des rendements qui ne soient pas décroissants. Et donc, si on reprend l'analyse en fait économique à la fois il y a très longtemps sur la question de la finalité de l'économie, on trouve le bonheur, et sur la question des conditions de développement économique, on trouve l'avarice de la nature. Simplement, on a oublié ça. On a oublié ça dans une évolution qui s'est faite à la fin du 19e, au début du 20e, qui s'est accélérée dans les années 70, où on a oublié complètement la question de l'environnement et on arrive, une fois de plus, à des situations complètement aberrantes dans lesquelles, d'abord, les économistes sont massivement désintéressés des questions d'environnement, si vous regardez le nombre de publications dans les revues, etc., alors même que ces questions deviennent absolument centrale, donc il y a un problème, disons, de désarmement intellectuel, et puis il y a un problème d'influence auprès des décideurs, où on explique que les réalités fondamentales, c'est la croissance, comment en avoir toujours plus, etc., etc., alors même que chaque année qui passe nous rappelle l'importance de ces écosystèmes, de cette biodiversité pour notre propre bien-être, une fois de plus. C'est pas la nature indépendante des humains. Les
bien
humains
sûr.
Sont naturels et la nature, maintenant, est à peu près totalement humaine.
Éloi Laurent, on se retrouve dans une vingtaine de minutes. Je rappelle que 2 de vos ouvrages sont disponibles gratuitement en ligne. Tout d'abord, Le bel avenir de l'État-providence et puis également Sortir de la croissance. Vous avez fait une nouvelle préface à l'État-providence, Les 4 mondes de l'État social-écologique. 8h sur France Culture, excellent réveil. Voici le journal de France Inter.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Comme vous le savez, la situation économique n'est pas précisément florissante. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, expliquait récemment que la France va probablement connaître la pire récession de sa vie économique depuis 1945. Nous sommes en compagnie d'un économiste à l'OFCE, Éloi Laurent. Éloi Laurent, vous avez publié 2 ouvrages que l'on peut trouver gratuitement en ligne, Le bel avenir de l'État-providence et puis un autre ouvrage intitulé « Sortir de la croissance ». Alors si je voulais être un peu provocateur, je dirais que vous devez être heureux parce qu'on va vraiment sortir de la croissance actuellement.
Alors non, je suis vraiment pas heureux. D'abord, c'est pas des conditions de vie qui convergent vers le bonheur. Enfin, il y a beaucoup de bonheur évidemment qu'on peut, enfin dans le temps qu'on peut passer avec ses enfants, etc. On va dire c'est un bonheur intense de chaque instant. Mais non, pour le reste, je ne suis pas heureux et je ne pense pas d'ailleurs que les gens qui combattent depuis en fait très longtemps la domination de la croissance et du PIB, du produit intérieur brut sur tout le débat économique et dans le débat public en général et l'influence que ça peut avoir sur les politiques publiques. Je rappelle que en France, on vote des budgets sous l'égide de la croissance, on vote des lois pour la croissance, que chaque président qui arrive au pouvoir promet de relancer la croissance, retrouver la croissance, etc. Je pense qu'en fait, aucun opposant à cette pensée n'est aujourd'hui content parce que en fait, personne n'a jamais dit que il fallait mettre tout le monde, boucler tout le monde pour qu'on puisse changer de monde, si vous voulez. La transition, c'est pas une prison. Donc, d'abord, moi, je ne suis pas, je n'appartiens pas au courant dit de la décroissance. Dans mon livre, je suis parfaitement clair sur ce point. sortir de la croissance, le sous-titre c'est mode d'emploi, et sortir de la croissance, c'est pas utiliser le même indicateur en sens inverse, c'est sortir du système de la croissance, et en un sens, pour moi, la décroissance en fait partie, si on l'entend comme l'idée selon laquelle ce qu'il faut opposer au fait que faire augmenter la croissance résout tout, c'est que faire baisser la croissance résout tout. Mais ce qui est une version évidemment caricaturale de ce que disent les décroissants. Donc d'abord, moi je ne suis pas décroissant, je propose d'aller vers ce que j'appelle la transition du bien-être, c'est-à-dire de façon évidemment ordonnée et surtout démocratique, de se donner des nouveaux indicateurs qui soient en phase avec les vrais défis du 21e siècle, les inégalités, la démocratie, l'écologie, et d'aligner nos politiques publiques sur ces nouveaux indicateurs de bien-être. Donc ma proposition centrale, c'est de considérer qu'à tous les niveaux de gouvernement, que ce soit au niveau des villes, au niveau des États-nations, au niveau des régions comme l'Union européenne, à chaque fois qu'on vote un budget, on le fasse sous l'égide d'indicateurs de bien-être humain et pas de croissance du PIB, notamment parce que j'observe en tant que chercheur qu'il y a une déconnexion de plus en plus forte entre le bien-être humain à la fois ici et maintenant, par exemple la question de la santé et la croissance du PIB. C'est malheureusement la tragédie qu'on va avoir aux États-Unis, hein, c'est-à-dire que c'est un des pays les plus riches de la planète en termes de PIB par habitant et celui qui a le plus fort taux de croissance en 2019 de tous les pays développé, et on va avoir la tragédie absolue du système de santé américain sous les yeux cette semaine et la semaine prochaine, parce que tout simplement c'est un pays qui ne cultive pas sa richesse humaine. Et puis il y a le bien-être au-delà de ici et maintenant, c'est-à-dire le fait d'encastrer les systèmes économiques dans la biosphère, et là aussi, comme je le disais tout à l'heure, c'est fondamental de se donner ces indicateurs comme boussole plutôt que le PIB, etc. Mais je voudrais, en défense des décroissants dont je ne suis pas, dire que les textes que je vois passer laissent entendre que même les plus acharnés des décroissants ne sont pas non plus du tout satisfaits par la situation actuelle, et notamment parce que la décroissance, qui est une pensée un petit peu, parapluie, sous laquelle on trouve en fait beaucoup de pensées différentes, induit une chose importante qui est l'innovation, la capacité d'innover et le fait d'inventer des nouveaux modes de vie. Évidemment, quand tout le monde obéit à un État central en étant bouclé chez soi, c'est impossible. Donc je pense qu'au cœur de cette pensée de l'invention des nouveaux modes de vie, il y a la question évidemment des modes de coopération, et cette crise les rend précisément impossibles. En fait, je pense qu'absolument personne parmi les opposants au système de la croissance n'est satisfait de la situation actuelle.
Alors, toujours pour parler de ces nouveaux modes de coopération, précisément, il y a une chose qui est en train d'émerger dans cette crise, cela a été dit par certains de vos collègues, je pense par exemple à l'économiste Daniel Cohen, Éloi Laurent. On a évoqué le fait que cette crise allait conduire les personnes à travailler de plus en plus avec le numérique, c'est-à-dire que le télétravail, il y avait des réticences. Aujourd'hui, le télétravail, c'est devenu une quasi-obligation, en tout cas pour beaucoup de professions, il est devenu incontournable. On voit que les outils numériques effectuent une percée décisive. C'est une bonne ou une mauvaise chose, selon vous ?
Bon, d'abord, ça me semble pas une idée complètement nouvelle. Ça fait quand même 20 ans que la transition numérique est engagée de façon extrêmement claire. Je vous rappelle que le premier crash boursier lié à la transition numérique, c'est 2001. Donc c'était il y a 20 ans pour une industrie qui était déjà arrivée au point où elle était capable de provoquer des crises financières. Donc ça fait au minimum 30 ans qu'on est là-dedans, 20 ans que ça s'est vraiment accéléré, 15 ans que nous sommes, que tout est absolument changé par le numérique. Donc penser que ce qui va être la grande chose, c'est l'avènement d'un capitalisme numérique, nous y sommes déjà. La question, c'est par contre que ça nous permet de voir davantage, disons, ses limites. Moi, je suis enseignant. Toutes les universités du monde, en France et aux États-Unis notamment, sont passées évidemment sur des systèmes numériques. Et là, on a des surprises. D'abord, sur la qualité de ce qui est offert par des outils qu'on nous décrit comme particulièrement performants, c'est vraiment, ça laisse à désirer, c'est le moins qu'on puisse dire. Et d'autre part, par le contrôle. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est qu'il y a quelques providers de services numériques qui se partagent un marché. On est sur des marchés très oligopolistiques, avec très peu d'acteurs, voire des acteurs uniques, et que tout ça est enregistré. C'est-à-dire, le contrat que vous passez au début, c'est quand même, est-ce que vous voulez être enregistré? Est-ce que vous voulez que tout ça soit archivé? Est-ce que vous voulez qu'on utilise des données, etc., etc. Donc, ce pacte un petit peu... disons méphistophélique avec le numérique, voilà. Donc si vous voulez, moi ce qui me frappe, c'est d'abord que c'est assez cheap en fait. C'est-à-dire que ce monde numérique qu'on décrit comme merveilleux, en fait, tout prend beaucoup plus de temps, c'est-à-dire qu'on voit à quel point les humains, notamment dans une conversation, sont infiniment plus efficaces, et parce que le langage c'est beaucoup plus que de la voix.
C'est-à-dire le numérique c'est laborieux.
Bah c'est très laborieux, c'est-à-dire que tout prend à peu près 4 fois plus de temps pour des systèmes qui sont censés être beaucoup plus productifs. C'est quand même une révélation, si vous voulez. C'est n'importe quelle réunion prend 3 heures alors qu'en principe elle prend 30 minutes. Donc tout le monde passe sa vie sur Zoom parce que ça prend simplement infiniment de temps pour des résultats qui sont quand même très faibles. Et en revanche, pour un coût en termes de liberté publique qui lui est très très important. Et de ce point de vue-là, j'entendais Dominique Méda très justement dire dans votre émission la semaine dernière, je crois que la période actuelle lui rappelait 1944, c'est-à-dire ce moment du foisonnement des propositions nouvelles, du CNR, de Philadelphie, etc. On pourrait rajouter publication de La Grande Transformation de Polanyi, etc. Ça peut être 1944, ça peut être aussi 1984. Donc il faut faire très très attention. Et moi, ce que je perçois de cette merveilleuse civilisation numérique, c'est quand même ses limites et ce sont ses dangers.
Mais il y a aussi des faits qui sont indéniables. Par exemple, le fait que le télétravail peut conduire à diminuer les déplacements, peut conduire aussi à un autre aménagement du territoire. Le fait que, par exemple, les villes soient progressivement désertées, qui est peut-être d'autres modes de vie possibles aussi, Éloi Laurent.
Alors ça, c'est une question effectivement très intéressante qui est-ce qu'il y a un arbitrage entre la qualité de ce qu'on peut faire à distance et par exemple le coût écologique. On sait qu'en France, on a un espace urbain qui est aménagé de sorte qu'on a une très forte mobilité pendulaire entre le lieu d'habitation et le lieu de travail avec des émissions de polluants à la fois locaux, les particules fines, globaux, le CO2, qui ont tendance à augmenter plutôt qu'à se réduire depuis 20 ans et que donc on aurait là une promesse qui serait la dématérialisation. En fait, je crois que le numérique nous fait deux promesses. La première promesse, c'est l'accélération de la coopération sociale. Et la deuxième promesse, c'est la dématérialisation et notamment donc l'atténuation du coût écologique. Je pense que ces deux promesses sont totalement illusoire. Je pense qu'on se rend compte que, en fait, ça n'accélère pas du tout la coopération sociale, bien au contraire, ça accélère ce que j'appelle la collaboration, qui n'est pas la même chose que la coopération, et d'autre part, que ça a un coût écologique extrêmement important. C'est-à-dire que, en réalité, les data centers, etc., par rapport à, je ne sais pas, vous êtes dans une ville avec des modes de transport en commun, vous prenez les transports en commun peu polluants du point de vue du CO2 et de la pollution locale pour aller à votre lieu de travail, vous avez une interaction qui est dense et riche avec d'autres humains, et ensuite vous êtes confiné chez vous avec aucun moyen d'avoir cette interaction dense et riche, mais avec des coûts écologiques liés à l'usage du numérique qui sont en fait très importants, c'est pas sûr du tout qu'on y gagne. Donc moi, c'est une fois de plus, ce qui m'apparaît de tous ces points de vue, c'est à quel point c'est limité et à quel point ça doit faire partie justement de la réflexion. Voilà. Par exemple, je voyais là récemment aux informations américaines le fait que l'État du Mississippi se met massivement à faire des téléconsultations pour pallier le fait qu'il y a très peu d'infrastructures médicales pour une population qui est en très mauvaise santé. Si on doit sortir de ça avec le fait que tous les services publics deviennent complètement au rabais par le numérique, c'est-à-dire l'éducation, la santé, etc., ce serait une très mauvaise affaire. Donc je crois qu'il faut aussi réfléchir à ça.
Alors parlons justement des services publics et de l'avenir de l'État-providence. Je prends le titre de l'un de vos deux ouvrages qui sont aujourd'hui disponibles gratuitement sur Internet en téléchargement, Éloi Laurent. Lorsque l'on compare par exemple deux pays qui sont aujourd'hui en crise du fait du coronavirus, l'Allemagne et la France, on a un peu plus de 56% de prélèvements en France et on voit que le système de santé français craque. Le système de santé allemand semble plus robuste, je dis bien, semble, alors même qu'en Allemagne, il n'y a que 44% de prélèvements. Est-ce que ça ne signifie pas que l'État-providence, en tout cas le niveau des prélèvements, n'est pas un indicateur de la manière dont, par exemple, le système de santé peut résister à une crise de cette nature ?
Alors, ça dépend. C'est pas un indicateur. Il y a aucun indicateur unique, en fait. Et c'est ça aussi la leçon de sortir de la croissance. C'est-à-dire que un indicateur indicateur unique et trompeur, quel qu'il soit, même si c'est un indicateur qui est censé mesurer des choses bonnes. Il faut au moins une pluralité d'indicateurs pour comprendre quoi que ce soit un phénomène. Il faut éclairer un objet, disons, à la manière de la géométrie descriptive, c'est-à-dire sous différents angles pour le comprendre. Donc cet indicateur unique qui est en plus en pourcentage du PIB, donc déjà on est en pourcentage de quelque chose qui lui-même est un indicateur douteux. Donc il faut regarder plus précisément, par exemple, la question du nombre de lits par habitant. Là, on voit des destins tout à fait contrastés entre la France et l'Allemagne. Il faut regarder aussi la question de l'état de santé de la population, de la manière dont on s'en occupe, la prévalence des maladies chroniques, en particulier pour une infection transmissible qui révèle en fait une épidémie de maladies chroniques. Une fois de plus, ça va être la terrible leçon des États-Unis qui se préparent, c'est que derrière l'épidémie de Covid-19, il y a l'épidémie des maladies chroniques. C'est aussi une leçon qu'on a en France sur le nombre de gens qui sont atteints par des diabètes, etc. Le nombre de gens aussi qui sont atteints par des insuffisances respiratoires liées à la pollution de l'environnement. On retrouve les questions environnementales. Donc, il faut beaucoup d'indicateurs différents. Mais il y a une réalité qui est qu'en effet, les pays qui ont des états-providence relativement développés ont mutualisé, puisque c'est visiblement aussi le mot d'ordre à Radio France, mutualiser, socialiser une partie importante de leurs ressources. Et de ce point de vue-là, en fait, quand vous regardez, vous faites des indicateurs un peu plus fins en termes de dépenses sociales, que vous regardez privées, publiques, etc., les grands pays développés du monde sont à peu près tous au même niveau en réalité. Il n'y a pas de différence si importante que cela si vous ajustez. Et puis sur la question de la santé, c'est pas l'ensemble des prélèvements obligatoires. Mais la leçon qui est que les états-providence les plus développés vont être de formidables amortisseurs du choc et que c'est une leçon pour l'avenir parce que on va avoir des chocs écologiques qui vont malheureusement s'accélérer et qu'on a besoin d'avoir des mécanismes d'amortissement à la fois économiques. Je rappelle que l'état-providence, c'est pas seulement une affaire de justice sociale, voire d'écologie dans son extension que moi j'appelle l'état social écologique. C'est d'abord une affaire économique. Plus vous avez de stabilisateurs sociaux et plus vous avez une économie qui peut tenir le choc par rapport à l'absence de mécanismes de marché. Et donc la question de l'assurance chômage, la question y compris du système de retraite. Et là, évidemment, on est obligé de faire un petit retour en arrière sur ce qu'on fait en France depuis une quinzaine d'années, qui est grosso modo qu'on désarme. On désarme notre état-providence. C'est-à-dire qu'une fois de plus, la crise frappe exactement au moment où on est en train de démanteler le système de retraite. Donc on a, si vous voulez, c'est à peu près comme si vous étiez sur une plage et à mesure que la vague arrive vers vous, donc disons les crises écologiques, vous déconstruisez votre maison plutôt que de la construire. C'est à peu près ça l'idée. Donc c'est vraiment exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Il faut non seulement vraiment reconstruire cet état-providence et avoir des mécanismes de protection plus importants. Et en plus, il faut le prolonger sur la question écologique. C'est-à-dire il faut réinventer la problématique de l'état-providence à un siècle où les risques sociaux sont des crises écologiques, ou dit autrement, les crises écologiques sont des risques sociaux. Ce qu'on a découvert à la fin du 19e siècle, on l'a pas découvert, mais en tout cas on l'a réalisé, c'est que effectivement la vieillesse, la pauvreté, le chômage, etc., tout ça sont des risques sociaux qui sont articulés autour du monde du travail. Et ce qu'on doit faire au début du 21e siècle, c'est comprendre que les crises écologiques, les inondations, les canicules, je rappelle que l'été dernier en France, on a eu 1500 morts du fait des canicules. Je rappelle que la canicule de 2003, on a eu certaines journées de août 2003, 2000 morts par jour. 2000 morts par jour. Aujourd'hui, nous avons 600, 700, 800 morts par jour. On n'est pas encore au sommet de la courbe. C'est déjà terrifiant. À l'époque, il y a certains jours du début de août 2003, on a 2000 morts par jour en France. Au total, 15 000 morts dans la canicule de 2003. Donc, on est aujourd'hui à 10 000 morts. Donc, ça, pour moi, c'est l'épisode de référence. Et à l'époque, si vous voulez, on avait un système de santé qui était plutôt en meilleur état et on n'a pas pu éviter ces 15 000 morts parce qu'il y avait une force encore plus grande et encore plus difficile à maîtriser qui est le changement climatique. Donc vraiment c'est ça, il faut absolument reconstruire nos protections collectives et c'est le plus mauvais moment possible pour les avoir démantelées.
Mais alors, précisément, si on voulait faire un rapprochement douteux, mais bon, il faut bien tenter de trouver des comparaisons historiques et Éloi-Laurent, si on prend par exemple ces protections collectives, si on compare par exemple le moment que nous traversons avec la crise de 29, on voit qu'il y a un recours au chômage partiel, qu'il y a un certain nombre de prêts qui sont proposés aux PME et aux TPE, bref, qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont proposées pour amortir le choc, alors qu'en 1929, ces mesures faisaient défaut. Est-ce que ça ne montre pas qu'il y a une prise en compte de la solidarité ou en tout cas une autre vision du corps social?
Heureusement. Heureusement qu'on a fait quelques progrès, si vous voulez, en un siècle et qu'on a appris. Parce que la crise de 29, c'est quand même ensuite quelques années plus tard le New Deal. La première mesure du New Deal de Roosevelt, c'est l'assurance chômage, parce qu'il comprend qu'avec 25% de chômage, c'est pas le système économique qui est en cause, c'est la démocratie américaine. Donc heureusement, si vous voulez, qu'on a appris notre leçon et qu'on a appris à maîtriser, disons, ce système économique pour éviter qu'il ne détruise en particulier le système démocratique. Mais le problème, c'est que, oui, ces protections sont là, mais regardez par exemple la question des minima sociaux, la façon dont on n'utilise pas les protections que nous avons encore aujourd'hui pour protéger les plus vulnérables, les plus faibles. Il faudrait une grande réflexion sur les mécanismes, plutôt que de s'imaginer qu'on va toujours faire appel aux banques centrales pour déverser du cash sur les gens et leur donner de la main à la main des billets de 100 euros. La question, c'est reconstruire le droit. Reconstruire.
Pourquoi c'est mal? Et expliquez-nous, Éloi-Laurent, pourquoi le fait que les banques centrales, le fait que l'Europe propose un fonds de 100 milliards d'euros pour venir en aide aux pays qui en auraient besoin, bref, pourquoi ce traitement-là de la crise actuelle vous paraît-il critiquable?
Non, c'est pas mal, c'est que c'est insuffisant. On a déjà vécu ça, on a déjà vu le film. C'est la crise de 2009-2010, avec comme stratégie essentielle une stratégie tournée vers les entreprises, les marchés financiers, les banques, etc. Moi, la leçon qui me paraît importante, c'est celle de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez un système, vous avez une période de privation importante de liberté. Et cette période de privation, paradoxalement, conduit à la reconstruction de normes de solidarité. Il y a une petite fenêtre de tir au sortir de la crise où on peut utiliser ces normes de solidarité pour créer des nouveaux droits. Et ce sont ces droits sociaux qui vont être importants et ces nouvelles protections sociales parce qu'elles permettent à la fois de répondre à l'urgence du présent. Évidemment, il y a une urgence du présent. Aujourd'hui, il y a une urgence du présent, par exemple, pour les familles les plus vulnérables qui sont confinées dans des logements extrêmement exigus, qui ont perdu leur emploi, qui n'ont plus de salaire, qui ont des loyers, etc. à payer. Très bien, on a un outil qui sont les minima sociaux. Mais ce qui est important, c'est de reconstruire ça sur la durée, c'est-à-dire de reconstruire des droits qui pourront non seulement nous permettre de sortir de la crise présente, mais d'affronter les crises à venir. Et donc de reconstruire, d'utiliser cette nouvelle norme de solidarité pour reconstruire de nouveaux droits sociaux. C'est ça qu'on a fait. Si vous relisez les ordonnances de la sécurité sociale d'octobre 1945, c'est exactement ce que ça dit. Ce que ça dit, c'est nous venons de vivre une période de privation, de difficultés, etc. Faisons corps social, faisons corps pour reconstruire quelque chose qui est de l'ordre de la protection contre l'incertitude. Parce que l'incertitude est inégalitaire, transformons ça en risque, transformons ça en mutualisation, puisqu'une fois de plus, c'est quelque chose qui vous parle à Radio France, eh bien, mutualisons ce risque pour être effectivement plus fort ensuite. Donc, plutôt que d'avoir l'idée de faire des stratégies de court terme, etc., qui sont par ailleurs extrêmement coûteuses et qui sont, malheureusement, on le voit dans le cas européen, tributaire évidemment de la concurrence sociale et fiscale, puisque c'est à peu près la seule chose intéressante qu'est capable de faire l'Europe depuis 15 ans, c'est la concurrence fiscale et sociale. Et si vous voulez, bon, la Commission européenne, c'est sûrement des gens qui sont animés de très bonnes intentions, mais c'est quand même tragique d'avoir quelqu'un qui arrive au micro pour dire la meilleure chose que nous puissions faire, c'est suspendre nos règles de gouvernement. Si vous voulez, ça dit quand même assez de le caractère toxique de ces règles de gouvernement en temps normal. Si la meilleure chose que l'Europe peut faire, c'est se mettre en veilleuse, si vous voulez, ça donne pas l'idée que l'Europe est construite sur des fondements extrêmement solides. Donc, il y a vraiment cette réflexion à avoir. On a la chance, je crois que c'est une chance, contrairement à ce que pensent beaucoup d'économistes, d'avoir cet État-providence qui est encore assez développé en France. On a la chance d'avoir cet hôpital public qui a réussi à survivre à la martyrisation dont il a été victime par le pouvoir politique, bah, essayons de construire une nouvelle norme, de prendre appui sur cette norme de solidarité, d'en faire quelque chose. Parce que, en revanche, ce qui est sûr, c'est que la fenêtre de tir va se fermer à un moment, et que si ce qui sort de ça, c'est que, par exemple, la ministre du Travail profite pour le coup de cette crise pour affaiblir encore le droit social et faire en sorte de traiter encore plus mal les travailleurs qui nous paraissent aujourd'hui essentiels, alors là, effectivement, il ne faudra pas s'étonner de l'épidémie de défiance généralisée.
Et précisément, lorsque vous dites que il y a des règles extraordinaires qui sont adoptées aujourd'hui au sein de l'Union européenne, est-ce que cette période extraordinaire n'est pas aussi un champ d'expérimentation intellectuelle pour les économistes, puisqu'on a une simultanéité entre une diminution forte de l'offre, de ce que les gens veulent acheter, et de la demande de ce que les entreprises veulent produire. Est-ce que ça n'est pas une situation absolument inédite et donc à cet égard importante à observer, Éloi Laurent ?
Si, bien sûr, je vous avoue que c'est pas ce qui me préoccupe nuit et jour de savoir quel papier académique je vais pouvoir écrire sur la simultanéité du choc d'offres et de demandes.
Non, je parlais pas du papier académique, mais pour comprendre comment fonctionnent ces mécanismes.
Oui, bah d'abord on en est qu'au début, ensuite il y a quand même des urgences importantes. Et une fois de plus, je crois que, enfin, l'économie s'efface complètement devant deux réalités, qui sont des réalités, les réalités essentielles du 21e siècle. Hein. L'économie s'efface devant la question de la santé. C'est frappant de constater qu'en fait, la valeur sous-jacente universelle, hein, puisque on a 3,5 milliards d'humains aujourd'hui qui sont confinés, et la valeur sous-jacente universelle, c'est la santé, c'est pas la croissance. Et on a des pays du monde qui ont convergé de façon absolument fulgurante vers cette valeur universelle et qui n'est pas une question d'abord économique. Et ça doit nous interroger sur notre capacité à converger vers cette valeur universelle en temps normal et sur un mode non autoritaire. Et puis la deuxième réalité, c'est la question écologique. Voilà, c'est la question écologique et c'est le fait que, fondamentalement, ces réalités économiques ne pèsent absolument rien devant la puissance des questions écologiques. Et donc l'économie, en fait, à mon avis, enfin, n'a de sens et n'est socialement utile que si elle est bornée par
la réalité. On vous a entendu. Okay, on vous a entendu. Merci beaucoup Éloi Laurent. Pour poursuivre cette réflexion, deux de vos ouvrages, Sortir de la croissance et Le bel avenir de l'État-providence, tous les deux aux éditions Des liens qui libèrent, 8h47 sur France Culture. Dans quelques instants, vous retrouvez vos rubriques actuelles et entre la transition d'Hervé Gardette, puis la théorie culturelle de Mathilde Serrel et enfin la radiographie du coronavirus par Nicolas Martin.